Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Bonsoir, vous êtes sur Radio Syllab et vous écoutez J'ai craché sur vos ondes, l'émission littéraire qui s'intéresse aux objets et aux faits de littérature, chaque mercredi de 19h à 20h. Nous poursuivons ce soir cette humble enquête sur ce qu'il advient de nos pratiques de lecture, maintenant que tout le monde ou presque est confiné chez lui. Agathe est ainsi allée à la rencontre de lecteurs et lectrices divers et variés, et Marion s'est chargée de vous conter comment faire pour trouver du bouquin à se mettre sous la dent, enfin sous les yeux, ou peut-être que... vous verrez bien. Pour accompagner ce reportage qui constitue la garniture du sandwich de notre émission, laissez-moi vous présenter les deux tranches de pain de mie, les chroniques qui l'accompagnent. Nous aurons tout d'abord Sophie, qui a cédé à la tentation de vous parler d'Histoire d'eau, un classique de la littérature érotique. Quant à moi, Cécile, je vous présenterai une bande dessinée parue cette année aux éditions Atrabile. Mais avant toute chose, nouveau rituel de notre émission, le petit journal des chroniqueurs et chroniqueuses confinés. Aujourd'hui, c'est Marion qui nous raconte comment ça se passe chez elle.
Cher journal, la chaleur est vraiment trop forte, étouffante et brûlante. En plus, je suis contrainte de me déplacer en marchant à cause des lois anti-juives. Ah non, merde, ça c'est le journal d'Anne Frank. Nous on n'en est pas encore là, hein. Enfin, je crois. Enfin, j'espère. Le doute m'habite. C'est quoi le sujet déjà ? Ah oui, mon journal de lectrice confinée. Eh bien mon petit, sache que ça fait plus d'un an que je vis confinée. Oui, c'est mon côté hipster, moi je fais tout avant que ce soit cool. En fait, ça fait un peu plus d'un an que je tente de redéfinir les contours de ma vie pour ne pas continuer à avoir le comportement d'une addicte à l'héroïne, guidée par l'unique désir de ne plus ressentir qu'une douce torpeur loin, loin, anesthésiée du monde et de ses malheurs. Mais quel rapport avec la lecture et le confinement ? Eh bien, suite au tri de mes habitudes de vie que j'ai eu le temps de faire pré-confinement, j'ai mis en place une routine de lecture divisée en trois. Le matin, l'après-midi et le soir. Vachement malin, hein ? Alors le matin, c'est entre une demi-heure et une heure. En fait, je déjeune en lisant, café ou thé, et puis je continue à lire en m'inondant de tisane et en relevant souvent la tête pour regarder par la fenêtre et laisser émerger les pensées nobles et profondes que fait naître en moi la lecture. Non, je rigole, généralement je phase sur une mouche. L'après-midi, c'est si j'ai le temps, mais c'est pas tous les jours du tout. Et le soir, je lis jusqu'à la deuxième vague de bâillement. Je vous explique. La première vague de bâillement, elle intervient toujours 5 minutes après affalage du corps dans le lit, mais la deuxième, elle est plus variable, ça peut aller de 10 minutes à 1h30, 2h, selon la fatigue et le livre. Donc tout ça, c'était ma routine pré-confinement. Et au début du confinement, ça doit être l'effet situation inédite, c'est la guerre, tout ça, je me suis cru obligée de changer mes habitudes, alors qu'en fait c'était juste comme si j'étais de nouveau au chômage. Enfin tout ça pour dire que je me suis un peu grisée du temps disponible que j'allais pouvoir accorder à la lecture, et j'ai tenté le 7 heures par jour. Bon, clairement, j'ai pas tenu, mais en bonne junkie que je suis, fallait bien tester, j'imagine. Donc quand je me suis rendu compte que je retombais dans l'anesthésie, je suis revenue à mon rythme habituel, sans finalement beaucoup le modifier. Enfin, une seule différence près, c'est que l'après-midi, même si je continue de faire souvent autre chose, et bah, comme j'ai un jardin, j'avoue que de temps en temps, il m'arrive de me vautrer dans un fauteuil pour lire au soleil, en me prélassant sous une douce brise, charriant le caressant bruissement des feuilles et la douce odeur des roses. Hein ? Comment ça, un journal du confinement, ça devrait pas servir à mettre la mort aux gens en étalant ses privilèges ? Ah, la romantisation du confinement est un privilège de classe ? Ah mais je savais pas, moi ! Merde ! Bah du coup, je vais m'en tenir à du factuel, hein, c'est bien connu, le factuel, c'est neutre. Ah non ! C'est pas possible d'être neutre ! Ah bah je savais pas, moi ! Bon, bah tant pis, on va quand même la tenter à la qui, que, quoi, quand, où, comment, pourquoi, avec qui, hein, démerdez-vous pour la neutralité. À la question qui, je vous réponds mi-étudiante, mi-salariée au chômage technique, marquée par un passif de boulimie de lecture. À la question que, je vous réponds que je comprends pas bien la question, mais qu'on va dire lire des livres. À la question quoi, je vous réponds le monde diplomatique par petit shot vaccinatoire avec un café, puis les lectures dont je me fends pour syllabes, de type lecture pour chronique. En ce moment donc, c'est les classiques qu'on n'a jamais eu le temps de lire, mais qu'on sait vaguement de quoi ça parle, alors bon, est-ce vraiment bien la peine de les lire ? L'après-midi, on passe à des BD, plein de BD. Genre Mythopoyès de Pignocchi, dont vous pouvez lire des extraits en ligne sur son blog Puntiche, je vous mettrai le lien. Ou donc, comme je disais, parfois rien du tout, même souvent. Et le soir, c'est la loterie parmi la pile du pied du lit. En ce moment, au box-office, il y a Voltairine de Clare, écrit d'une insoumise. Rien à voir avec Mélenchon, hein, c'est une anarchiste états-unienne de la deuxième moitié du 19e siècle. Et elle envoie du pâté. Perso, il y a des soirs où ça me requinque pas mal. Si on continue la pile, il y a des essais d'Orwell, à picorer. Il y a « Jouer juste » de François Bégodeau, que j'ai lu d'une traite mais que je relis pour le plaisir de certaines punchlines. Parfois aussi, je me fais quelques poèmes de l'ermitage de Ryokan, un moine zen ermite japonais du 19e siècle. J'avoue, des fois, je comprends rien, mais des fois aussi, c'est, comment dire, rafraîchissant. Bref, la pile du pied du lit, elle est pleine de bouquins très différents les uns des autres, je vous ai pas tout donné, mais comme ça, je peux choisir selon mon humeur de la journée et mon énergie du soir. À la question « Comment ?», je vous réponds en short vert avec des petits bonhommes mexicains et des cactus dessus. À la question « Où ?», je réponds « À table le matin, puis dans un fauteuil devant la fenêtre, n'importe où l'après-midi, de préférence dehors, et dans mon lit le soir. » Et enfin, à la question « Pourquoi ?», je réponds que c'est votre devoir de citoyen.
Lisez, retrouvez aussi ce sens de l'essentiel.
Merci Marion. On poursuit avec une petite mise en bouche pour vous mettre dans l'ambiance. On se retrouve juste après The Sweater Taboo par Sade. Et vous écoutez J'irai cracher sur vos ondes. Sans plus tarder, on écoute la chronique de Sophie.
Enfin une femme qui avoue. Qui avoue quoi? Ce dont les femmes se sont de tout temps défendues, mais jamais plus qu'aujourd'hui. Ce que les hommes de tout temps leur reprochaient, qu'elles ne cessent pas d'obéir à leur sang, que tout est sexe en elles, et jusqu'à l'esprit. Qu'il faudrait sans cesse les nourrir, sans cesse les laver et les farder, sans cesse les battre. Qu'elles ont simplement besoin d'un bon maître, et qui se défient de sa bonté, car elles emploient à se faire aimer par d'autres tout l'entrain, la joie, le naturel qui leur vient de notre tendresse, sitôt qu'elle est déclarée. Bref, qu'il faut prendre un fouet quand on va les voir.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir à vous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de nos chroniques érotiques, Sophie à l'appareil pour vous servir. Aujourd'hui, je veux aborder pour vous un classique de la littérature érotique du XXe siècle, un ouvrage scandaleux, s'il en fallait encore un. En 1954, les éditions Jean-Jacques Pauvert publient un petit roman qui fera rapidement scandale, Histoire d'eau, signé du pseudonyme de Pauline Réage, assorti d'une préface de l'écrivain Jean Paulhan, intitulée « Du bonheur dans l'esclavage ». Oui, mes chers, je crains tout à fait que vous ayez bien entendu « Le bonheur dans l'esclavage ». Voilà qui résume tout à fait la fable d'Histoire d'eau. Dès sa sortie, François Mauriac trouve le livre à vomir. Mais qui est-il à vomir dans ces quelques 200 pages? L'on y découvre le récit d'une femme, O, menée par son amant en un château de Roissy, où il la prostitue à ses confrères au sein d'une société secrète, la soumet au fouet, au viol, et finalement à la bonne volonté de qui voudra, pour pourquoi le récit est-il choquant parmi tous les autres ? Parce que c'est le récit d'une soumission absolue, d'une servitude qui n'a rien d'involontaire, mais participe d'un mouvement violent et fougueux de la volonté. Et j'affirme ici que pour terrible et violent et insupportable que soit ce récit, il constitue l'une des plus farouches déclarations d'amour de l'histoire de la littérature française. Derrière le pseudonyme de Pauline Réage se dissimule en effet la discrète Dominique Horry, célèbre femme de lettres et de tête, contributrice importante auprès de la NRF, première femme reçue en Hippocane également. Cette dernière attendra pourtant 1994 et d'avoir 87 ans pour révéler la maternité de cette œuvre terrible qui a fait couler tant d'encre. Et que découvre-t-on à cet instant ? Que Dominique Horry était l'amante de Jean Paulhan, le même qui a écrit la préface, et que l'histoire d'eau s'inscrit comme un bijou précieux dans leur histoire clandestine. Alors qu'ils se fréquentent, Paulhan est marié, plus âgé qu'elle, il est également un mentor pour la jeune femme, profondément éprise de lui. Pour le séduire, pour se l'attacher, pour lui prouver finalement la force de son amour, Dominique Horry se lance ainsi dans l'écriture de l'histoire d'eau, en cachette, au creux de la nuit. Et le récit de la soumission d'eau, le récit de son esclavage, constitue une déclaration enflammée et absolue. Subjugué par l'audace de son amante, Paulhan la convainc de transformer ses lettres nocturnes en un véritable récit. Un jeu s'instaure entre les deux amants. Dominique Horry écrit, Jean Paulhan et Jean-Jacques Pauvert publient et défendent l'œuvre, feignant d'ignorer tout de l'identité de l'auteur, alors que la polémique fait rage. Et ce petit jeu, à présent connu de nous, heureux lecteurs contemporains, complices de la mascarade, nous offre une relecture savoureuse de ce savant jeu de dupes. Écoutons ainsi Paulhan jouer les grands naïfs.
Mais l'histoire d'eau, d'un bout à l'autre, est plutôt conduite comme une action d'éclat. On songe à un discours, mieux qu'à une simple effusion, à une lettre, mieux qu'à un journal intime. Mais la lettre est adressée à qui ? Et le discours, qui veut-il convaincre ? À qui le demander ? Je ne sais même pas qui vous êtes. Qui est Pauline Réage ? Est-ce une simple rêveuse comme il en est ? Il suffit, disent-elles, d'écouter son cœur. C'est un cœur que rien n'arrête. Est-ce une dame d'expérience qui a passé par là ?
Il y aurait beaucoup à dire sur Histoire d'eau, sur l'écriture brillante de Dominique Horry, sur la pureté de ses lignes qui crient à chaque instant sa dévotion, sur la densité de ce style d'une propreté et d'une décence incomparables. Je dis décence, oui, et je ne suis pas la seule. Parce qu'il est extrêmement difficile de mener ainsi un récit aussi insoutenable, avec une telle élégance dans les mots. Je vous propose d'écouter le point de vue de Jean Paulhan sur la question.
S'il est un mot qui me vient d'abord à l'esprit quand je songe à eau, c'est le mot de décence. C'est un mot qu'il serait trop difficile de justifier. Passons. Voilà deux fois que je songe à la décence, à propos d'un livre où il n'en est guère question. Mais est-il vrai qu'il n'en soit guère question ? Je ne songe pas à la décence un peu fade et fausse, qui se contente de dissimuler, qui s'enfuit devant la pierre et nie l'avoir vue bouger. Il est une autre sorte de décence. Elle est irréductible et prompte à châtier, qui humilie la chair assez vivement pour la rendre à sa première intégrité, et la renvoie par la force au jour où le désir ne s'était pas déclaré encore et le rocher n'avait pas chanté. Une décence entre les mains de laquelle il est dangereux de tomber. Car il ne faut rien moins pour la satisfaire que les mains liées derrière le dos et les genoux disjoints, le corps écartelé et la sueur et les larmes.
Il y aurait beaucoup à dire, donc, sur cette écriture sensorielle et farouche, sur la théâtralité de ce long fantasme déroulé à nos yeux, sur l'art de la mise en scène et la puissance des images qui viennent s'incruster dans l'esprit du lecteur avec violence. Mais ce que j'en dirai aujourd'hui surtout, et parce que je manque toujours cruellement de temps, c'est qu'il est important de lire Histoire d'eau et de l'affronter. Pourquoi ? Pour se rappeler de ce que signifie vraiment désirer. Du début à la fin, eau opère sur elle-même une expérience qui relève de l'absolu, en se livrant entière et pleinement. Et si elle subit de page en page, il ne faut pas oublier que du début à la fin, ce livre est celui d'une femme. Et chaque événement, chaque atrocité, elle n'y est pas seulement consentante, même si le mot est présent, mais elle le désire, le provoque et l'orchestre. L'histoire d'eau est l'expression libre d'un désir profond, sans honte et sans phare. En ce sens, c'est un cri farouche de liberté, une affirmation audacieuse et passionnée, une déclaration brûlante, qui nous rappelle ainsi que désirer, vraiment désirer, c'est rendre réel. et qu'il y a dans l'abandon une puissance, un pouvoir, qui dépasse de loin tout entendement. Pour toutes ces raisons, par curiosité, et parce que peut-être nous disposons tous de ce désir secret de nous laisser aller, je vous invite, chers auditeurs, chères auditrices, à vous plonger sans frémir dans ce classique paroxystique de la littérature érotique, où Eros et Thanatos s'enlacent mutuellement pour mieux s'affirmer. Pour conclure cette chronique, et parce qu'il me semble déraisonnable, très déraisonnable, de laisser entendre la voix de Paulhan, mais pas celle d'Ori, je vous laisse avec les premières lignes d'Histoire d'eau, et vous souhaite une très belle journée, une très douce soirée, ou une nuit agitée, c'est selon. Son amant emmène un jour Eau se promener dans un quartier où ils ne vont jamais, le parc Montsouris, le parc Monceau. À l'angle du parc, au coin d'une rue où il n'y a jamais de station de taxi, après qu'ils se sont promenés dans le parc et assis côte à côte au bord d'une pelouse, ils aperçoivent une voiture avec un compteur qui ressemble à un taxi. « Monte, » dit-il. « Elle monte. » Ce n'est pas loin du soir et c'est l'automne. Elle est vêtue, comme elle l'est toujours, des souliers avec de hauts talons, un tailleur à jupe plissée, une blouse de soie et pas de chapeau, mais de grands gants qui montent sur les manches de son tailleur. Et elle porte dans son sac de cuir ses papiers, sa poudre et son rouge. Le taxi part doucement, sans que l'homme ait dit un mot au chauffeur. Mais il ferme, à droite et à gauche, les volets à glissière sur les vitres et à l'arrière. Elle a retiré ses gants, pensant qu'il veut l'embrasser ou qu'elle le caresse. Mais il dit « Tu es embarrassée, donne ton sac. » Elle le donne, il le pose hors de portée d'elle et ajoute « Tu es aussi trop habillée. Défais tes jartelles, roule tes bas au-dessus de tes genoux, voici des jarretières. » Elle a un peu de peine, le taxi roule plus vite et elle a peur que le chauffeur ne se retourne. Enfin, les bas sont roulés et elle est gênée de sentir ses jambes nues et libres sous la soie de sa combinaison. Aussi, les jartelles défaites glissent. « Défais ta ceinture, » dit-il, « et ôte ton slip. Cela, c'est facile. Il suffit de passer les mains derrière les reins et de se soulever un peu. » Il lui prend des mains la ceinture et le slip, ouvre le sac et les y enferme, puis dit « Il ne faut pas t'asseoir sur ta combinaison et ta jupe. Il faut les relever et t'asseoir directement sur la banquette. » La banquette est en moleskine, glissante et froide. C'est saisissant de la sentir coller aux cuisses. Puis il dit « Remets tes gants maintenant. » Le taxi roule toujours et elle n'ose pas demander pourquoi René ne bouge pas et ne dit plus rien, ni quelle signification cela peut avoir pour lui, qu'elle soit immobile et muette, si dénudée et si offerte, si bien gantée, dans une voiture noire qui va elle ne sait pas où. Il ne lui a rien ordonné ni défendu, mais elle n'ose ni croiser les jambes, ni serrer les genoux. Elle a ses deux mains gantées, appuyées de chaque côté d'elle, sur la banquette. « Voilà, » dit-il tout à coup. « Voilà. » Le taxi s'arrête dans une belle avenue, sous un arbre. Ce sont des platanes. Devant une sorte de petit hôtel qu'on devine entre cour et jardin, comme les petits hôtels du faubourg Saint-Germain. Les réverbères sont un peu loin. Il fait sombre encore, dans la voiture, et dehors il pleut. « Ne bouge pas, » dit René. « Ne bouge pas du tout. » Il allonge la main vers le col de sa blouse, défait le nœud, puis les boutons. Elle penche un peu le buste et croit qu'il veut lui caresser les seins. Non. Il tâtonne seulement pour saisir et trancher avec un petit canif les bretelles du soutien-gorge qu'il enlève. Elle a maintenant, sous la blouse qu'il a refermée, les seins libres et nus, comme elle a nus et libres les reins et le ventre, de la taille au genou. « Écoute, » dit-il, « maintenant, tu es prête. Je te laisse. Tu vas descendre et sonner à la porte. Tu suivras qui t'ouvrira. Tu feras ce qu'on t'ordonnera. Si tu n'entrais pas tout de suite, on viendrait te chercher. Si tu n'obéissais pas tout de suite, on te ferait obéir. Ton sac ? Non, tu n'as plus besoin de ton sac. Tu es seulement la fille que je fournis. Si, si, je serai là. Va. »
Merci Sophie pour cette chronique. Je sais pas vous, mais j'ai besoin d'un peu d'eau. Rassurez-vous, chers auditeurs, chères auditrices, je ne vais pas vous infliger le son de mes déglutitions. Non, non, non. À la place, un morceau déjà passé dans notre émission, car on l'aime beaucoup. Il s'agit de « J'ai tout lu, tout vu, tout bu » et cette fois-ci, On écoute la version interprétée par Jacques Dutronc.
De France Dimanche à Diderot, l'humanité, le veuve Picot, Lénine et le satiricon, Bossuet et la fille Napoléon, ici Paris, le plan du métro, lui et les pensées de Mao, le patin et le dictionnaire, de l'Alsace et puis du Sancerre. Karl Marx, les frères Goncourt, les tracts, la cassette de Saint-Flour, le potin et les frontispices, un petit coup de bonos aspices, les digestes et les sélections, les constellations, les macons, les trucs savants, des trucs cochons, c'est pour ça que je suis un con. J'ai tout lu, tout vu, tout vu. J'ai tout su, tout lu. J'ai tout, surtout, j'ai tout.
C'était J'ai tout lu, tout vu, tout bu, interprété par Jacques Dutronc. Je vais pas m'occuper de ce que vous allez boire, c'est pas mes affaires. Et pour ce qui est de voir, on est à la radio, donc voilà. Mais pour ce qui est de lire, je vous laisse écouter à présent le reportage préparé par nos chroniqueuses de talent, Agathe et Marion, qui se sont intéressées aux pratiques et aux moyens de lecture en ces temps de confinement.
Je m'appelle Justine, j'ai 27 ans. J'ai toujours lu, j'ai toujours vu ma mère lire et comme elle, je lisais. Quand j'étais petite, je lisais plus que mon frère et ma sœur, c'est sûr, mais beaucoup moins que certains de mes amis, qui étaient de très grands lecteurs. Et puis de toute façon, Internet est arrivé à la maison et la lecture est un petit peu passée au second plan. Ça fait maintenant une petite dizaine d'années que j'ai repris la lecture par plaisir. Quand je suis arrivée à la fac, en gros, j'ai commencé à lire en anglais et ça m'a remis le pied à l'étrier. J'étais toujours pas une très grande lectrice, je pouvais mettre plusieurs semaines à lire un livre, mais je lisais quand même, de temps en temps, et puis j'avais toujours un livre en cours. Et le mois de novembre 2019 est arrivé. Je travaille en saison, donc normalement de mars à novembre, et du coup quand j'ai été au chômage, j'ai lu le bon livre au bon moment, et c'était parti. Je vais pas dire que je lis des dizaines de livres par mois, mais au moins 4 ou 5, voire plus s'il y a des bandes dessinées dans le lot. Je lis principalement des romans, principalement en anglais, même si je lis des auteurs et des autrices francophones de temps en temps. Je saurais pas trop dire quels genres sont mes préférés, je sais juste que je suis pas fan des classiques qu'on me forçait à lire à l'école, mais que j'aime bien quand ça va mal. Mon dernier coup de cœur par exemple, c'est Mad Linkage d'Edgar Cantero, qui mélange horreur, satire et surnaturel. Je pense pas que le confinement ait joué dans mon rapport à la lecture, puisque ça ressemble beaucoup à mes quelques semaines de chômage pendant l'hiver. Ça n'a pas tellement influé sur mes goûts non plus, puisque je me lance toujours dans un livre au feeling. Il m'arrive parfois de commencer un livre, de pas trop accrocher sur le moment, et d'y revenir plusieurs mois ou années après, et là, la magie opère. On pourrait dire du coup que ma période de chômage a été un peu comme un pré-confinement qui m'a fait retomber dans la lecture, et je ne le regrette pas du tout.
Bonjour à toi, cher auditeur. J'espère que tu vas bien en cette période de confinement. N'est-ce pas la période idéale pour lire ? En tout cas, c'est ce qu'on nous répète à tout va depuis mi-mars. Avec le confinement, on aura plus de temps, on va pouvoir lire, on va pouvoir se cultiver, on va pouvoir devenir une meilleure version de soi-même. Même le président s'y est mis.
Et en restant chez vous, occupez-vous des proches qui sont dans votre appartement, votre maison. Donnez des nouvelles, prenez des nouvelles. Lisez.
Lisez.
Du coup, à la rédaction de J'irai cracher sur vos ondes, on s'est posé la question. Est-ce que vraiment les gens lisent plus depuis le confinement ? Et ça, on n'en était pas sûr. Ce qu'on savait en revanche, c'est qu'il risquait d'y avoir du changement. On a donc essayé de décortiquer les habitudes de lecture de tout un chacun, avant et après le confinement, pour voir ce que cela donne et si, comme on le prétend, toute la nation s'est transformée en rat de bibliothèque. Moi aussi, je me suis mis au télétravail, et j'ai pu tester des télé-interviews. J'ai lancé un appel à témoignages et vous avez été nombreux à répondre. Merci à tous ceux qui ont répondu.
Si je lis plus en ce moment, c'est parce que j'ai vraiment beaucoup plus le temps. C'est vrai que moi, quand je lis, j'aime bien me plonger dans le roman ou dans ce que je suis en train de lire pendant plusieurs heures. Et c'est quelque chose que je peux pas faire au quotidien. Donc voilà, là, je peux me mettre dans mon jardin ou dans ma chambre et juste profiter de ce que je suis en train de lire pendant plus longtemps. Et c'est quelque chose que j'apprécie plus en fait que lire juste 5 minutes, 10 minutes avant de me coucher. C'est pas quelque chose que je fais au quotidien.
Pour ce qui est des habitudes de lecture, le constat a été vite fait. Si le confinement est l'occasion de lire plus, comme pour Louise que l'on vient d'entendre, ou encore Michel, tous deux étudiants, cela provoque aussi chez certains des pannes de lecture, comme pour Juliette, elle aussi étudiante.
Alors, déjà, depuis le confinement, je trouve que je lis moins. Après, je lisais pas énormément avant, parce que j'étais un peu dans une période de creux, où j'avais pas forcément beaucoup envie de lire. Mais là, je lis encore moins. Et je pense que c'est lié au fait que je suis rentrée chez moi. Du coup, je suis avec ma famille, ma sœur. Et en fait, je fais des choses que je pouvais pas forcément faire quand j'étais en train d'étudier tout le temps, on va dire.
Mais confinement, ce n'est pas toujours synonyme de changement, comme le souligne Paul.
Bah pour moi, c'est pareil, parce que compte tenu de mon métier d'agriculteur, je travaille tous les jours sur la ferme. Et donc, ça n'a rien changé sur ma façon de vivre.
Et tu lis à peu près combien de livres ou de journaux ou...
En fait, très peu. Je lis un petit peu le soir et donc c'est environ un quart d'heure tous les soirs. Et un petit peu les journaux.
D'ailleurs, s'il faut penser à ceux qui, comme Paul, travaillent toujours et pas que en slip devant l'ordi, s'il faut penser au personnel soignant qui n'a pas vraiment le temps d'ouvrir un bouquin, il ne faut pas oublier non plus que pour les gros lecteurs, cela ne change pas grand-chose non plus. C'est le cas de Mégane.
Il n'y a pas eu grand changement depuis le début du confinement par rapport à mon habitude de lecture, puisque je me considère de base comme étant bibliophage. Vraiment, je m'empiffre les livres dès que j'ai un moment libre. Donc je lis beaucoup plus, étant donné qu'avec le confinement, j'ai plus de temps libre. Mais à part ça, j'ai pas de changement spécifique par rapport à mes habitudes.
Un autre paramètre qui nous a intéressés à la radio, c'est la lecture des journaux. Car oui, quand on pense lecture, on pense roman. Mais lire les journaux, c'est aussi de la lecture. D'ailleurs, même lire le paquet de céréales le matin, c'est de la lecture. Et ce qu'on peut voir avec les journaux, c'est que même ceux qui ne sont pas forcément portés sur l'actualité sont tentés de les consulter, comme Sylvie, enseignante.
Je ne lis pas vraiment des journaux au sens journaux papier, hein. Je ne lis pas la presse en papier. Par contre, pendant cette période de confinement, je me tiens au courant de l'actualité en lisant davantage peut-être les journaux sur Internet. Je me tiens au courant quand même de l'actualité. Et je remarque que je regarde ces journaux dans la journée. Avant, je lisais la presse de temps en temps dans la semaine. J'étais moins au fait de l'actualité. Là, je m'y mets à plusieurs reprises dans la journée. Je regarde l'évolution de l'actualité.
Qu'il soit papier ou sur le net, en ce moment, on a besoin d'informations. Mais attention à ce que ça ne devienne pas un tic angoissant, du genre à consulter 4 fois les news dans la journée. Se tenir informé, c'est bien, mais il faudrait pas virer paranoïaque non plus. Et pour cela, c'est vrai que la lecture, ça peut aider. Oui, mais quoi faire si, comme Michel, on n'a pas un gros stock de livres et que toutes les librairies du quartier sont fermées ?
Et après, sur les livres, là, je suis chez moi. Et comme je suis plus à Paris, j'ai ma bibliothèque qui est assez conséquente, avec beaucoup de livres en retard, mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai envie de lire que je peux pas acheter, et ça me démotive peut-être un peu. Alors c'est peut-être aussi une excuse, mais c'est vrai que se plonger sur des grosses lectures, il faut en avoir envie, et là, si c'est lire pour lire, j'ai de quoi faire, mais c'est assez difficile de s'y mettre, quoi.
Pas de panique, Michel, Marion a cherché la solution. Qu'est-ce que tu lui conseilles ?
Merci, Agathe. Alors moi, à la base, je voulais vous proposer une sorte de petit guide du lecteur confiné, c'est-à-dire comment se procurer des livres en confinement, tout ça. Et puis bon, je crois que j'ai un peu dérapé. Alors bon, déjà, en prélude à toute production intellectuelle, et ce, afin de ne pas passer complètement pour une tanche, il est de bon ton de faire quelques recherches. Je me suis donc pliée à cet usage noble et légitime, le meilleur moyen que j'ai trouvé pour faire semblant d'avoir des idées étant de chourer celles des autres. Grâce à des recherches approfondies sur la première page des résultats, donc, je me rends compte avec soulagement qu'on n'était pas les premiers, j'irai cracher sur vos ondes, à avoir eu l'idée de traiter le sujet de la lecture en confinement. Et oui, Dès le lendemain de l'annonce du confinement, Télérama a déjà pondu un article intitulé
« Coronavirus, où trouver des livres au temps de l'épidémie sans passer par Amazon ?»
Et là je me dis « Bingo ! Ça, ça sent les bonnes idées à chourer. Et en plus, c'est politiquement correct en jetant l'opprobre sur Amazon et tous ces gueux obligés de continuer à travailler sans donc pouvoir lire. Quelle horreur. Et alors la boum, l'article débute en mode burn au feu qui passe au vert avec un gros incipit in medias res.
Une question majeure se pose en ces temps de confinement propice au stockage, comment ne pas manquer de livres ?
Eh oui, une question majeure. L'article nous informe que Jacques Addy a dit
« L'objectif étant la restriction des contacts. »
Il va donc sûrement falloir abandonner la possibilité de se faire livrer des livres à domicile. Oh mon dieu, Charles-Henri, mais comment faire si l'on ne peut plus se faire livrer ? Ne vous inquiétez pas, Marie-Catherine, vous pouvez toujours vous faire livrer de la nourriture par des gueux, seuls les livres sont visés par le politiquement correct. Ne vous inquiétez pas, car Télérama est là pour nous rassurer, car en effet...
Aujourd'hui, toutes les maisons d'édition proposent des formats numériques, e-pub ou PDF, et en plus, c'est moins cher.
Et oui, Marie-Catherine, et tous ceux qui auraient vécu dans une cave les 20 dernières années, vous pouvez vous tourner vers le numérique en ces temps de fléau divin. Je passe l'éponge sur le « c'est moins cher » qui n'est pas toujours très vrai, mais vous avez tout un tas de plateformes qui font ça très bien, et je vous mettrai des liens sur la page de l'émission, dans ma feignasse. Le verdict est donc sans appel.
Le livre papier, on aime tous ça, mais voilà, il faut se rendre à l'évidence, la lecture sur écran risque de devenir notre meilleur ami.
Personnellement, j'ai pas utilisé le terme « meilleur ami » depuis l'époque où Laurie vendait des singles. Ensuite, quand on vous demande de vous...
rendre à l'évidence.
Généralement, ça pue du cul. Mais bon, comme faut bien trouver des idées à chourer, j'ai décidé d'explorer cette piste par amour pour toi, ô auditeur confiné. J'ai donc continué à pomper le contenu de Télérama, ce qui nous rappelle que...
Bien sûr, tout est appréciable quand c'est gratuit. En matière de lecture, vous avez de quoi tenir une quarantaine de siècles, en confinement, avant d'avoir épuisé toutes les bibliothèques de livres numériques constituées par des ouvrages libres de droit.
Et oui, Marie-Catherine, à la différence de ton patrimoine foncier, les livres peuvent passer dans le domaine public. Et c'est vrai que le livre numérique, pour ça, c'est chouette. Ça permet d'avoir accès gratuitement à une sacrée palanquée de bouquins. Je cite Wikipédia, dans l'ensemble des pays membres de l'Union, les œuvres entrent dans le domaine public 70 ans après le décès de leur auteur. Donc, ouais, une sacrée palanquée de bouquins, que vous pouvez retrouver sur Wikisource, sur le site du projet Gutenberg. Il y a aussi beaucoup de choses sur Gallica, le portail de la Bibliothèque Nationale de France, et quand je dis beaucoup, c'est genre des millions, les gars. Et il y a aussi des sites spécialisés dans la littérature jeunesse, sans oublier nos bibliothèques. Si vous avez une carte au champ libre, par exemple, vous pouvez aller piocher dans leur bibliothèque numérique. Bon, maintenant que j'ai repris la moitié de leur article, autant que je continue. En plus, c'est tellement bien écrit, Télérama, et ça ne prend pas du tout le lecteur pour une quiche.
Il existe une loi historique bien connue, les plus grandes innovations surgissent toujours durant les crises. Pourquoi ne pas l'appliquer à votre façon de lire ? Vous pourriez par exemple expérimenter le livre audio pour décoller les yeux de l'écran.
Oh mais oui, merci Télérama, bien sûr, le livre audio, mais en voilà donc une idée qu'elle est bonne. Du coup j'ai chouré les trois liens qu'il donnait vers des plateformes de livres audio disponibles gratuitement, il y en a juste des milliers pour tous les goûts. C'est vrai que c'est toute une ambiance quand c'est bien fait un livre audio. Moi je vous conseille Zazie dans le métro de Queneau, où il y a beaucoup de dialogues, et c'est assez génial d'entendre parler l'argot des années 50 du bouquin. En plus Zazie passe son temps à dire « Je vous mets un lien, vous m'en direz des nouvelles ». Bon, le livre numérique, le livre audio, je crois qu'on a fait le tour. Ah non, l'article n'est pas fini.
Enfin, ce confinement n'est-il pas l'occasion de renouer avec votre bibliothèque, comme on retrouverait un vieil ami perdu de vue ? Tous les lecteurs peuvent en témoigner. Certains livres sont encore meilleurs lors de la seconde lecture, et puis c'est bon pour votre santé. Une étude parue dans le Journal of Consumer Research de l'Université de Chicago en octobre 2011 soulignait les bénéfices de la relecture pour la santé mentale. Notamment pour redécouvrir, au-delà du texte, les émotions enfouies de la première fois.
Bon, là, j'avoue, je jette l'éponge. Je dis pas que l'idée est mauvaise, c'est plutôt chouette de relire certains livres. Mais cette technique racoleuse de l'étude universitaire accompagnée de son retour utilisateur, on dirait une pub de lessive, les gars. Bon, on leur pardonne parce que c'est pas facile tous les jours de clore un article, mais c'est quand même un peu écrit au pinceau en poil de cul. Mais vous allez me dire, l'initiative de Télérama est louable. Bon Dieu, elle répond aux...
questions majeures
de la lecture en temps de crise. Pardon, en temps de guerre. D'ailleurs, depuis le début du confinement, on ne compte plus les initiatives visant à approvisionner coûte que coûte le lectorat français confiné, démuni et bourré d'anxiolytiques. Par exemple, des sites comme Covid-19, confinementlecture.com, ou encore la poétique opérationbolder.fr, deux initiatives qui réunissent plusieurs éditeurs indépendants qui proposent des livres numériques gratuits qui vous sont envoyés chaque jour, voire même plusieurs livres numériques, plus des livres audio. Ensuite, évidemment, vous avez toute la cohorte des gros, que je ne prendrai même pas la peine de citer, et qui, dans un mouvement de mansuétude plein de magnanimité, nous informe qu'eux aussi mettent à disposition des milliers de livres numériques gratuitement, sans préciser bien sûr qu'il s'agit essentiellement de leurs invendus. Et du côté BD, vous avez des plateformes comme Isneo, Calameo, Sequoia City, Comixology ou BD Buzz qui centralisent pas mal de choses. À ce sujet, il y a un article du Monde, si vous tapez BD gratuitement, confinement, vous le trouverez. Je vous mets un lien sur la page de l'émission et comme ça, vous pourrez lire l'an 01 de GB. Enfin bref, de manière générale, s'il y a des éditeurs que vous aimez bien, allez voir leur site, vous y trouverez sûrement quelques petits trucs à vous mettre sous la dent. Moi par exemple, je suis allée dans ma bibliothèque de Nanty et je vous donne quelques idées pêle-mêle. Aux éditions La Découverte, il y a quelques chouettes bouquins à lire, par exemple Chez Soi de Mona Chollet ou Le Droit à la Paresse de Paul Lafargue, et quelques autres encore. Il y a aussi les éditions Zulma, qui ont mis en place la mise en ligne hebdomadaire de, je cite, « Une nouvelle pour échapper aux nouvelles », qui explore souvent l'univers d'auteurs étrangers, mais pas que. Et le format de la nouvelle fait que ça reste assez tolérable en termes de temps de lecture sur écran. Ah bah oui mon petit, parce que je vous le dis tout de suite, si vous n'avez pas de liseuse, l'écran, même avec un logiciel type Flux sur votre ordi, c'est pas le gros kiff, hein. Et vous savez comment je le sais?
Je le sais parce que je suis un cochon!
Merci Nif Nif. Non, je le sais parce que je me suis farci 1000 pages de Game of Thrones sur ordi et j'en ai presque perdu un œil. Bref, effectivement, grâce à internet, si vous avez une liseuse, vous avez beaucoup, beaucoup de livres à lire. Vous avez même de quoi lire 15 heures par jour jusqu'en 2022, quand vous aurez de nouveau le droit de sortir, mais que ce sera à peu près le seul droit que vous aurez. Donc revenons au sujet de base, c'est-à-dire comment trouver des livres en période de confinement si vous n'en avez aucun sous la main et que votre survie mentale en dépend. Et oui, rappelez-vous, c'est...
une question majeure.
Eh bien, en temps de crise, pour dominer, il faut persuader l'autre qu'aucun de ses repères ne sont plus valables. Plongé dans un état de stress devant l'inconnu, l'autre doit accepter le fait que la situation est critique, qu'elle est entièrement nouvelle. On peut alors lui fournir la solution miracle au problème inédit ainsi posé. Bon, ça je l'ai chouré à Naomi Klein, la doctrine du choc. Vous me direz, mais quel rapport? Eh bien, c'est très adapté à la question de la lecture et du confinement, qui n'est ni, comme le veut Télérama...
une question majeure.
Ni une question tout court, parce que j'ai pas mis de point d'interrogation. Bon, plus sérieusement, c'est vrai, le confinement est un événement assez inédit. Encore que. Mais surtout, il nous place dans une situation où on attend de l'autorité qu'elle nous indique ce qu'on a le droit de faire. Il nous place dans une situation où on attend que d'autres nous indiquent ce qu'il est bien de faire ou pas. Le confinement nous prive de l'initiative de la réponse et la laisse à d'autres qui nous imposent leur vision des choses. Pour le livre audio, je dis pas, ça va peut-être encourager des productions un peu plus vivantes que des lectures simples, mais les millions de livres numériques dont les internets mondiaux regorgent n'ont pas attendu le coronavirus pour apparaître tel de fougueux Pokémon. Ça fait des années qu'on essaie de nous refourguer de force des liseuses et des e-books. Là, c'est l'occasion de rêve, on peut enfin forcer les lecteurs en leur présentant le numérique comme la seule solution. Il n'y a pas d'alternative, les gars.
Il faut se rendre à l'évidence.
Le numérique comme pratique complémentaire, c'est un peu le bilan des années passées. Mais là, comme d'hab, comme pour beaucoup de domaines, on essaie de nous présenter le numérique comme la solution miracle à tous nos problèmes. Dans un article d'actualité.com, un site dédié à l'univers du livre, on m'explique même avec gravité que...
nous ne sommes plus en temps de querelle de format entre papier et numérique. Il faut protéger la pratique de la lecture et la diffusion des contenus.
Enfin, je veux dire, on m'explique, mais en fait, il s'agit d'Émilie Mathieu, la PDG d'Idantes, qui, comme l'indique sa fonction de dirigeante d'une boîte d'e-book, est tout à fait objective. Oui, oui, il faut. Vous entendez? C'est votre devoir, c'est la guerre. Arrêtons les querelles de chapelle, j'en appelle à l'unité nationale, parce que le numérique est notre projet! Bon, eh, faut surtout descendre de ces grands chevaux et arrêter de croire que la pratique de la lecture est une demoiselle en détresse qu'il faut sauver des assauts maléfiques du méchant coronavirus. D'un côté, il y a ceux qui travaillent encore trop pour avoir le temps de lire, ou qui ont d'autres chats à fouetter, voire à bouffer si ça continue, et il y a ceux qui effectivement vont avoir du temps pour lire, mais perso, si je devais penser qu'il faut sauver la pratique de la lecture, en bonne vieille réac gauchiasse que je suis, je dirais que le danger c'est plutôt le néolibéralisme. Quand on finit par rationaliser son temps à l'extrême pour pouvoir survivre, ça laisse pas beaucoup de temps à la place de la lecture, mon bon monsieur. Et comme pour le néolibéralisme, l'individu est un consommateur passif, eh bien, on pourrait essayer d'être l'inverse. Soyons actifs, à vous de vous creuser les méninges pour trouver une solution à votre potentielle pénurie de livres. Exploitez le système des boîtes à livres, créez-en... que sais-je, Marie-Catherine, allez donc dire bonjour à vos voisins depuis votre balcon en fer forgé et exposez-leur votre envie de littérature. Ensuite, ne soyons pas des consommateurs. Si vous le pouvez ou le voulez, c'est le moment de créer, tiens, vous pourriez vous mettre à écrire des poèmes de confinement. Vous y mettez un petit peu d'angoisse existentielle saupoudrée de carpe diem et le tour est joué. Et vous nous les envoyez, et on les lit dans l'émission. Au début pour ceux qui sont bien, et puis les nuls à la fin. Et enfin, soyons fous, ne soyons plus des individus, faisons-nous collectif. Même que, et nous, on pourrait s'appeler la Fédération Brétilienne de Lecture. Et en fait, on dirait que on serait tous des mini-bibliothèques et qu'on mettra la liste de nos livres en ligne. Et on dira qu'on se prêtera les livres, mais en mode récupération de mallettes mafieuses, vous savez, à distance, avec des masques et des gants, sur une route vide, sans un bruit, avec les oiseaux qui chantent et le soleil qui brille. Allez, bisous, et comme dit un grand homme, prenez soin de vous.
Merci Marion pour tous ces précieux conseils, ils me seront bien utiles à moi aussi. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos lecteurs. J'ai également rencontré Julien Rampin, plus connu sur Instagram sous le nom de La Bibliothèque de Juju. Julien est ce qu'on appelle un bookstagrammeur, c'est-à-dire qu'il publie depuis de nombreuses années son avis sur les livres qu'il lit. En tout, c'est 11 000 personnes qui lisent ce qu'il écrit sur la plateforme d'Instagram. Les critiques de livres sont donc une dimension essentielle dans le contenu des bookstagrammeurs. Et pour certains, cela leur permet même de toucher un peu d'argent. Julien nous raconte, avec son délicieux accent du Sud, ce que le confinement a changé dans son rapport à la lecture.
Avant le confinement, je lisais environ une dizaine de livres par mois. Après, ça pouvait varier selon le format effectivement du livre, selon l'intérêt que j'avais pour les lectures. Un livre qu'on aime énormément, on peut le lire en très peu de temps et on peut, entre guillemets, galérer un peu sur d'autres ouvrages. Effectivement, j'en lisais minimum une dizaine. Sans aucun souci, c'était pas un problème, avant donc le confinement. Alors maintenant qu'on est coincé chez nous, je lis moins de romans comme je faisais auparavant. En fait, j'ai du mal à rentrer dans un roman, je ne sais pas pourquoi, je ne me l'explique pas, je n'arrive pas à véritablement me concentrer. Donc du coup, j'en ai commencé plusieurs, et j'ai plusieurs lectures en cours. Et même si ce sont des romans qui m'intéressent, j'ai du mal à me plonger dedans. Par contre, ce qui est rigolo, ou pas, je sais pas, c'est que je lis énormément de comics, de bandes dessinées, alors que d'habitude, j'en lis très peu. Mais c'est un format, en fait, qui me correspond mieux sur des lectures, sur des plages de temps courtes. J'arrive à beaucoup plus me mettre dedans. Donc écoute, je profite de ça pour lire des BD. Voilà. Je sais pas vraiment pourquoi mes habitudes de lecture ont changé. Je pense qu'on est préoccupé, plus ou moins consciemment, par l'avenir. Et du coup, on s'interroge, quoi. J'ai lu un article il y a pas longtemps, je vis passer ça sur Insta, où en fait, quelqu'un expliquait qu'il était choqué, entre guillemets, que son esprit n'arrivait pas à se concentrer lorsqu'il lisait un passage où on dit il la serra dans ses bras, ou il la tenait par la main. Et du coup, ton esprit dit, mais non, il faut pas en ce moment, il faut pas se tenir la main, il faut pas embrasser les gens. Et du coup, en fait, tu n'arrives pas à rentrer dedans parce que tu es extérieur au vu de la situation. J'avais trouvé cet article très 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 intéressant.
Mais ce n'est pas tout. Julien est également auteur depuis peu d'un livre s'intitulant « Grandir un peu ». Il a donc un aperçu des coulisses et nous raconte ce que le confinement a changé côté écriture.
Alors, à ce qui concerne mon roman, donc Grandir un peu, que j'avais auto-édité, j'ai constaté qu'effectivement j'avais des ventes numériques, peut-être parce que les gens ont plus de temps, ont eu envie de s'y pencher. Donc effectivement, j'ai vu que les ventes augmentaient un petit peu. Après, c'est pas non plus phénoménal, mais oui, je pense que ça peut jouer, que des gens qui lisent peu d'habitude peut-être arrivent, contrairement à moi, arrivent à se mettre à lire, je sais pas. Alors, je lis moins, mais c'est vrai que j'arrive à écrire par contre. Bizarrement, c'est peut-être ce qui me permet le mieux de m'évader. J'écris actuellement non pas un nouveau roman, j'en ai un en préparation, mais je l'ai mis entre parenthèses. Je suis en train de travailler sur la réécriture de mon roman, Grandir un peu, donc, que j'avais auto-édité, puisque j'ai signé, c'est plus un secret, chez un éditeur, aux éditions Charleston, donc il sortira en 2021. Au printemps prochain, je pense. Donc, on est en pleine réécriture avec mon éditrice, et donc c'est passionnant. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de mon temps, et que le confinement, malgré tout, pour ce genre de choses, c'est un temps idéal pour l'écriture, pour fignoler, pour travailler. Voilà.
Il a donc un aperçu des coulisses et il nous raconte ce que le confinement a changé côté écriture. Et je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a donné envie d'en savoir plus sur l'impact que peut avoir le confinement sur les auteurs, mais aussi sur les maisons d'édition et sur la chaîne du livre en général. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un second reportage. Ah oui, et comme j'ai eu beaucoup de participation, j'ai pas pu mettre tous les enregistrements, tous les interviews. Je vous invite donc à aller sur le lien du podcast pour retrouver les interviews en intégralité.
Merci les filles pour ces témoignages et ces précieux conseils. C'est maintenant l'heure d'une nouvelle pause musicale pour introduire notre prochaine chronique. Je vous laisse donc profiter de la chanson Funky Town par le groupe Limp Inc. Sur Syllab et vous écoutez J'irai cracher sur vos ondes. Il est à présent temps de la chronique BD. Que dis-je ? Du jingle BD !
La chronique BD.
La quoi ?
Moi, j'ai rien compris à cette phrase.
Allez !
La chronique ta mère.
La quoi ?
La chronique BD.
Ok.
Pour la commencer, cette fameuse chronique BD, il me vient l'envie de vous conter ma rencontre avec cet ouvrage. C'était un mois de février. Je me trouvais à Angoulême pour quelques festivals, honorant, paraît-il, le 9e art. C'était un jour de février à Angoulême, donc. Et c'est dans une foule compacte et prochainement moite que j'avançais au travers du chapiteau sobrement intitulé
« Un nouveau monde ».
Et ce, à la suite de ma partenaire de festival de BD et inestimable amie. J'en profite pour ouvrir une petite parenthèse et vous recommander vivement la présence d'un ou d'une partenaire de festival de BD. Si vous n'en voyez pas la nécessité, vous sous-estimez grandement le potentiel qui se cache derrière les éléments suivants. Les chansons chantées, sinon hurlées sur fond de trafic routier, en chœur, ou en tout cas avec le chœur, hein. Vos cultures et connaissances respectives qui, une fois fusionnées, démultiplieront considérablement votre capacité d'appréciation au contact des humains et des livres qui se trouvent sous vos yeux. Le plaisir de dévorer un sandwich, non pas seul tout sur un trottoir random, mais en amicale compagnie sur un banc. Car oui, l'amitié donne des ailes et la force de trouver un banc. Liste non exhaustive et fin de parenthèse. Pourquoi je vous barbe avec ma life et ma pote ? Tout simplement parce que lors de cette traversée de chapiteau, le Nouveau Monde, je suivais mon amie qui s'arrêtait régulièrement pour me dire « Oh là là, j'ai vu Myriam Mal en parler sur Insta, ça avait l'air super chouette !» Et à chaque fois, l'autrice en question était à 30 cm de nous. Le processus s'est quand même répété 3 fois de suite. Et dans ce processus, vous comprenez enfin où je veux en venir, on a atterri devant Mathilde Van Gulluw, autrice de la bande dessinée dont je vais vous parler ce soir. Nous avons d'abord atterri sur le stand, dans un flash soudain et évident devant cette couverture violacée et zébrée d'or et de rose fanée. Sous nos yeux, le titre en caractère jaune or, imposant et somptueux. Funky Town. Et juste en dessous, l'histoire de Lélé. Lélé, c'est cette petite fille au milieu de la couverture. Un tracé bleu-violacé délimite son personnage rempli d'un dégradé jaune-rosé. A l'inverse, les personnages farfelus et torturés qui l'entourent sont emplis de ce bleu de nuit électrique, et leur tracé dégradé a l'effet d'un néon usé. On y devine des démons sous acide, arborant des chapeaux pointus, des costumes aux imprimés sophistiqués et des yeux à glacer le sang. Ouais, cette couverture a fait un putain d'effet. Et je vous ai même pas parlé de comment c'était dedans. Là, pour le coup, je vais faire simple, c'est beau. Ah, on me signale que vous voulez peut-être savoir c'est beau comment.
Alors, c'est beau, mais avec beaucoup de graphite. Une texture des crayons papier comme on en voit rarement. Je sais pas si c'est l'artiste qui a accumulé 2 mm de graphite sur chaque page, ou si c'est le scanner employé qui est de la plus haute qualité, à moins que ce soit les imprimantes qui n'aient produit leur plus beau jet d'encre, peut-être en vérité les trois à la fois, mais la première chose qui vous frappe lorsque vous ouvrez Funky Town, c'est la nuance des gris, des tracés, des ombrés, des voilages et des feuillages, de ceci et de cela. Ah là là, Mazette, qu'est-ce que c'est beau! Avec tout ça, je vous ai même pas encore dit c'était quoi l'histoire. Alors voilà, on est à Funky Town, dans une ville, bah funky quoi, et Yalele, c'est une petite fille de 11 ans, mais plus pour longtemps. Elle vit avec sa mère, une grande et grosse femme qui vit nue, allongée dans la cuisine, et qui a toute une horde de petits gens pour la servir. Lélé et sa maman vivent ainsi, dans leur grande maison, château. L'architecture de la bâtisse est assez vague, mais c'est à l'image de la ville en fait. En tout cas, Lélé ne peut en sortir que pour un seul motif. Pour s'en aller dans la forêt, et rendre visite à une autre femme, drôle et mystérieuse elle aussi, pour formuler une étrange requête.
Bonjour Baba Yaga. Maman m'envoie récupérer son tu-sais-quoi. Il est trop tard pour un bonjour, trop tôt pour un bonsoir. Entre. C'est prêt ? J'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Assieds-toi, Lélé. Ne parlons pas de ces choses superficielles. Devrions-nous plutôt te concocter quelque chose de spécial ? Non merci, maman m'attend. J'ai juste besoin du tu-sais-quoi. Je suis pressée. Pressée ? Qu'est-ce qu'une enfant comme toi peut comprendre du temps qui passe ? Tout ceci est très relatif. Pressée. Pourquoi donc serais-tu pressée ? C'est bientôt prêt ? Tu es arrivée avec du retard. Tu retourneras en ville avec du retard. Le soleil est loin d'être couché. J'ai écrit un autre poème ce matin, très moderne. Bientôt, ils s'éveilleront. Le soleil n'est pas si loin de son coucher. Tu veux l'entendre, mon poème ? Pas vraiment, non.
Pour couper court à cette discussion, la dénommée Baba Yaga se met à déclamer de la poésie. Et tandis qu'elle récite, qu'elle touille, patouille et prépare sa potion, au-dessus du chaudron se mettent à flotter les vers. Ceux de Poèmes à la nuit, d'Anna de Noailles.
La nuit où meurt l'azur, les bruits, les contours, où les vives clartés s'éteignent une à une, ô nuit, urne profonde, où les cendres du jour descendent mollement et dansent à la lune, jardin d'épais ombrages, abri des corps d'aimants. Nuit penchée au-dessus des villes et des eaux, toi qui regardes l'homme avec tes yeux d'étoiles, regarde, nuit dont l'œil argente les cailloux, ce cœur phosphorescent dont la vive brûlure éclairerait ainsi que les yeux des hiboux, l'heure sans clair de lune, où l'ombre n'est pas sûre.
Le poème est fini. Et Lélé s'est endormie. Je vous le déclare tout net, Baba Yaga, c'est le nouvel amour de ma vie. Son visage a de cesse de changer. Tantôt Isabella Jenny lascive à en crever, tantôt sorcière démonia qui crache de la fumée. On ne sait si elle est douce, indifférente, maléfique, peut-être tout ça à la fois. En tout cas, elle est complexe, ambivalente et... Oh mon Dieu, elle a des cheveux si longs qu'on peut s'endormir dedans. Ah, ma vie ! Je me dois de vous faire écouter cet extrait qui me provoque tant d'émoi à défaut de pouvoir vous le montrer. Une fois encore... Lélé s'en va chez la sorcière pour chercher le tu-sais-quoi. Elle trouve la sorcière allongée dans l'herbe.
Bonjour Baba Yaga. Je ne peux pas traîner aujourd'hui. Ordre officiel de maman. Est-ce aujourd'hui ton anniversaire ? Non, mais presque.
Quel ennui !
J'ai quelques nouveaux poèmes pour toi. Si tu t'ennuies, je peux les lire. Je ne suis pas vraiment d'humeur à écouter tes vers. Mais je peux t'en lire. Assis. L'un contre l'autre toute la nuit, les amants restent. Ils tournent ensemble dans leur sommeil, proches comme deux pages d'un livre. Ils se lisent dans le noir. Chacun sait tout ce que l'autre sait, appris par cœur de la tête aux pieds. Je peux avoir le tu sais quoi ?
Cette fois-ci, c'est le poème L'un contre l'autre toute la nuit d'Elizabeth Bishop que cite la sorcière. Et cette fois-là, Lélé ne s'endormira pas. Et de l'histoire, je ne vous donnerai pas de plus amples détails. Néanmoins, je souhaite indiquer que ce livre m'a beaucoup fait penser à la trilogie Histoire couleur de terre, un manga coréen de Kim Dong-hwa, paru en France chez Casterman. Tout particulièrement dans le premier tome, on retrouve cette petite fille, au grand front et aux cheveux coupés au-dessus des épaules, qui vit seule avec sa mère, et qui s'apprête à ne plus être une petite fille justement. J'ai retrouvé aussi quelque chose dans le dessin, dans le trait. Mais là où Mathilde Van Gulhuv est à mes yeux une virtuose de la mine, Kim Dong-hwa, c'est celui de l'encre. Pour celles et ceux qui auront la ref, vous aurez ainsi, je l'espère, une petite idée de ce que peut être Funky Town. Bon, je vous précise quand même, niveau ambiance, c'est plutôt les opposés. Mais je vous laisse découvrir ça par vous-même, il faut bien garder quelques surprises. En tout cas, si vous souhaitez lire l'histoire de Lélé, bah ne vous ruez pas dessus en fait, c'est vraiment pas le moment de commander, les colis apparaissent pas tout seuls sur le bas des portes ou dans les boîtes aux lettres, et puis une BD aussi chouette, ça vaut pas le coup de risquer des vies. Une fois le confinement fini, vous aurez tout à loisir de découvrir Funky Town. Et puis qui sait, d'ici là, on aura peut-être les prochains volumes. Bah oui, je vous ai pas dit, pour étoffer l'histoire de Funky Town, deux opus sont à prévoir. Midnight Romeo, puis La Secte. Oh là là, qu'est-ce que j'ai hâte. J'espère que vous aussi. C'est déjà la fin de notre émission. Merci à nos lecteurs et lectrices, que ce soit ceux qui aient accepté de nous accorder un peu de leur temps pour nos interviews, mais aussi à Tabou, Juliette, Olivier, Nufnuf et Ingrid pour les lectures que vous avez entendues au cours de cette émission. Par contre, pas merci à l'homme pas essentiel dont vous connaissez le nom. Hein. Et merci à vous aussi, nos petits auditeurs et auditrices chéries. On vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.